La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Thierry Rouquet, je suis pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse. Aujourd'hui, je vous propose une méditation sur le psaume 126. Chant des montées, quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation comme les torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes. Alors le titre de cette méditation est « L'austérité, un attribut de Dieu ». Évidemment, vous avez compris que cette question rhétorique amène une réponse tout autant affirmative, dans le sens que, évidemment, l'austérité ne peut pas être un attribut de Dieu. Les protestants ont la réputation d'être des gens austères, à l'allure sévère, associés à un puritanisme étriqué. Globalement, le christianisme souffre de ce préjugé tenace. Privation et inhibition seraient la marque toxique des chrétiens. L'écrivaine américaine Phyllis McLinghay a dit « L'austérité du caractère n'est pas un attribut du sacré ». J'ai souvent remarqué que les personnes qui ont fréquenté des institutions religieuses ou se pratiquaient une forte discipline avaient une image très négative et déformée de la foi et du christianisme. Des punitions sévères, rarement proportionnelles aux fautes commises, une hypocrisie morale du personnel, une idéologie réactionnaire, bref. Les personnes qui ont fréquenté ce type d'établissement sont devenues alors réfractaires à l'Évangile parce qu'elles n'ont eu sous les yeux que des exemples d'adultes, parents, éducateurs, instits, profs, dont la compréhension de l'Évangile était façonnée par les interdits religieux, des vies marquées par l'inhibition et les frustrations qui en découlent, et surtout où la joie était totalement absente, voire considérée comme une marque de mondanité contraire à la foi. Et du coup, ces personnes ont un regard sur la foi chrétienne faussé. Elles assimilent la vie chrétienne à ce qu'elles ont vu dans leur enfance. Aujourd'hui encore, quand on parle de l'Évangile, on se heurte à des préjugés tenaces. La religion, c'est pour les vieux. Laissez-moi mener une vie joyeuse, sous-entendu, si je dois suivre Christ, je vais devenir la personne la plus triste au monde et renoncer à la joie de vivre. Je vais donner deux exemples qui illustrent bien ce préjugé ancré dans la mentalité de nos contemporains. Dans le film de la réalisatrice Anne Jaffery, Qui a envie d'être aimé, film adapté d'ailleurs du récit de l'itinéraire spirituel de son mari Thierry Bizot, converti au christianisme, la réalisatrice nous montre cet avocat, Antoine, 40 ans, marié, père de deux enfants, faisant carrière et qui fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Dieu. Comme il ne dit rien à personne et qu'il s'absente de plus en plus du foyer pour aller à ses réunions, sa femme se pose des questions. Peut-être me trompe-t-il. Un jour, elle le met en demeure de s'expliquer. Et Antoine avoue tout. Je me suis converti, lui dit-il. Sa femme lui répond, mais tu réalises que les gens qui vivent ça deviennent des moines. Autrement dit, tu vas devoir tout quitter, renoncer à tout, aux joies de la vie, et peut-être me quitter moi aussi. Parce que adhérer à l'Évangile, eh bien, ce serait perdre la joie. Voilà ce préjugé tenace dont je parlais précédemment. Un autre exemple, c'est dans le film Le Festin de Babette de Gabriel Axel. de la romancière danoise Karen Blixen. Babette a fui la répression de la commune insurrectionnelle de Paris. Elle se réfugie dans une petite bourgade norvégienne avec pour seul bagage un baluchon, un billet de loterie. Elle entre au service de deux sœurs célibataires, filles d'un pasteur luthérien, comme bonne à tout faire. Et Babette passe 12 monotones années dans cette petite communauté puritaine marquée par l'austérité, l'économie et le renoncement aux plaisirs terrestres. Puis arrive de France une lettre lui annonçant qu'elle a gagné 10 000 francs, premier prix de la loterie. Babette alors propose d'offrir et de préparer un repas à la française pour célébrer les 100 ans du défunt pasteur. Les assauts répétés des mets succulents auront raison de toute cette hypocrisie religieuse et délieront les langues, réjouiront les cœurs et égayeront l'austère maison. Ce film pose la question en fait de la place réservée à la joie dans la vie chrétienne, cette joie qui avait totalement disparu de cette famille luthérienne. Et le film, avec humour, nous montre le contraste entre cette austérité et la joie finalement qui va déboucher après ce repas et qui va se voir dans le visage de tous ses convives. Mais où donc est passée la joie, le rire, l'humour qui nous permet de temps à autre de prendre de la distance? Cette joie dont d'ailleurs le psalmiste dans ce psaume 126 que nous avons lu, cette joie qui nous donne la liberté de rire de nous-mêmes et de ne pas nous prendre trop au sérieux. Peut-être que les chrétiens doivent réinvestir cette vertu chrétienne qu'est la joie pour être des témoins dans ce monde sombre, taciturne. La joie n'est-elle pas une manifestation de la présence et de l'action de l'esprit, comme le dit l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, etc. Aucune loi n'est contre de telles choses. Aucune loi n'est contre de telles choses. Il fait allusion, bien sûr, aussi à la loi mosaïque. Le premier miracle de Jésus en Jean 2 n'est-il pas l'eau changée en vin dans le cadre d'un mariage, un cadre, bien sûr, où la joie est forcément présente. Et l'apôtre Jean considère cela comme un signe qui servit à manifester la gloire du Messie. Dans le psaume que nous avons lu, ce psaume 126, l'expression « nous nous réjouissons » est au centre de ce psaume, au verset 3. Les versets 1 à 2 racontent les bénédictions passées accordées au peuple d'Israël. « Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. » Et puis, les versets suivants, la deuxième partie, les versets 4 à 6, sont tournés là vers le futur. « Seigneur, rétablis notre situation. » Autrement dit, la joie du peuple de Dieu s'appuie sur des certitudes. L'œuvre de Dieu passée, c'est-à-dire la Pâque, la sortie de l'esclavage d'Égypte, cette joie nourrit donc l'espérance future du peuple. Cette joie va donner sens à la vie du croyant et orienter son avenir. Le peuple d'Israël ne cessait de se remémorer la sortie de l'Égypte, les miracles tout au long du périple dans le désert, puis l'arrivée en Canaan. Que de signes tangibles de la fidélité de Dieu, de son amour, que de situations où la providence divine s'est manifestée. C'est pourquoi au verset 3, le psalmiste peut s'approprier cette joie et dire lui aussi ce que toutes les nations racontaient au sujet du Dieu d'Israël. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur, et le psalmiste reprend ce coup-ci à son compte, cette affirmation, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons. Autrement dit, la considération des faits passés, des faits miraculeux de la délivrance accordée par le Dieu du salut, eh bien, apportait au peuple d'Israël une grande joie, de grandes réjouissances. Les célébrations dominicales devraient refléter cette joie. Peut-être pas forcément de façon exubérante, mais le privilège d'une liberté retrouvée s'exprime toujours par une immense joie. Rappelons-nous ces images des prisonniers libérés après la Seconde Guerre mondiale, retrouvant leur famille, ces prisonniers libérés des camps, retrouvant la liberté. À la Libération aussi à Paris, on voit ces hommes, ces femmes dans une joie immense. Si cette joie n'est pas forcément exubérante et sonore, elle peut être en tout cas un élément, et elle doit être un élément, je dirais, important de la foi chrétienne. À ce titre, la joie est constitutive de notre adoration et donc de nos célébrations. Le rassemblement du peuple de Dieu en un même lieu nous démontre la miséricorde de Dieu qui ne fait exception de personne. Les prières des chrétiens nous parlent de la compassion que tout le corps exerce pour chaque membre de l'Église de Jésus-Christ. Toutes ces choses nous engagent à louer Dieu avec foi et à demeurer dans la joie du salut révélé dans l'Évangile. Dans nos rassemblements, nous nous rappelons sans cesse tout ce que Dieu a fait pour nous. Notre culte devrait démontrer la largesse de l'amour de Dieu. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, Dieu nous a tous appelés en Jésus-Christ à être ses enfants d'adoption. Nous avons un même Père, une même foi, une même espérance. Et donc nous partageons tous la même joie du salut. Alors comme le peuple d'Israël, nous pouvons dire « Le Seigneur a fait pour nous tous de grandes choses ». Comme le psalmiste, nous nous réjouissons. Alors notre bouche est pleine de rire. Notre langue pousse des cris de joie. Vous notez bien des cris de joie. Dans les versets 4 à 6 de notre psaume, eh bien, le psalmiste se tourne vers l'avenir pour intercéder en faveur de son peuple, pour que cette joie revienne à lui. La situation d'Israël est certainement désastreuse à cet instant. Le peuple est menacé de toutes parts par les grandes puissances avoisinantes que sont l'Égypte, la Syrie, la Babylonie. Régulièrement, le pays est envahi par des armées hostiles et cruelles. Comment alors, dans cette situation, ne pas être effrayé? Comment ne pas tenir des propos alarmistes? Comment encore espérer en l'Éternel? Surtout, comment parler de joie? Et notre situation actuelle, eh bien, pourrait aussi être identifiée à la situation du peuple d'Israël à ce moment-là. Comment pourrions-nous être dans la joie au vu de cette pandémie qui n'en finit pas? Si le psalmiste peut puiser au fond de lui la force de prier pour son peuple, c'est parce qu'il s'est auparavant nourri de la joie du Seigneur. Il est habité par une force surnaturelle. C'est la joie de l'Esprit de Dieu. L'avenir peut être incertain, inquiétant. Rien ne pourra ôter la joie qui habite le psalmiste et qui lui donne l'espérance que Dieu va intervenir favorablement pour son peuple. Dans ces versets 4 à 6, deux images décrivent l'espérance du croyant. L'arrivée d'une pluie subite et providentielle après une longue période de sécheresse dans le désert du Néguev. Image de nos âmes assoiffées de Dieu et de sa grâce. Et la deuxième image au verset 5 et 6, c'est le cultivateur qui va semer avant d'espérer moissonner quelque chose dans son champ. Celui qui sème ou ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Le cultivateur est dans l'espérance, il ne voit pas encore le résultat de sa semence, mais il est dans cette espérance, parce qu'il y a une promesse qui nous porte dans notre service pour Dieu, même si ce service est éprouvant et semble ne pas porter du fruit. La joie du Seigneur nous remplit de confiance. Comme le cultivateur, nous croyons que tout ce qui est semé en Dieu portera du fruit. Tout, oui, j'ai bien dit tout, y compris nos souffrances, nos luttes, peut-être nos déceptions, nos épreuves. Tout cela portera son fruit en son temps, dans la mesure où tous ces combats, nous les avons semés en Dieu, comme ce cultivateur qui va semer avant d'espérer moissonner quelque chose dans son champ. Toutes ces choses, nous les avons offertes à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y aura une récolte de joie. Verset 5 de notre psaume, « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, il revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes. » Quelle merveilleuse image! La joie divine n'est pas celle que nous offre la société du divertissement. Dans l'idéologie de la société du divertissement, la joie consiste à éliminer tout ce que nous ressentons comme une douleur. Ce qui conduit finalement à l'équation suivante. Pour avoir de la joie, il faut s'amuser et éviter tout ce qui nous ramène à la réalité humaine. Finalement, éviter de garder les yeux ouverts. Notre culture est remplie de bouffons payés grassement pour nous éviter de penser à la souffrance et de réfléchir à notre humanité et à sa destinée. Or, la joie du Seigneur est plutôt une valeur ajoutée qu'un produit de substitution, telle une drogue qui nous ferait oublier les difficultés du moment et qui cautériserait notre conscience. La joie du Seigneur ne surgit pas seulement là où il n'y aurait pas de tristesse. Elle n'exclut pas les larmes, la douleur, ce qui fait dire d'ailleurs à l'apôtre Jacques, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. La joie du Seigneur, elle ne nous est pas donnée pour que nous n'ayons plus de souffrance, mais au sein même de ces souffrances, cette joie qui nous donne une espérance et une assurance, cette joie, eh bien, nous permet d'exprimer le bonheur d'appartenir à Dieu et de le servir. Parce que cette joie ne dépend pas d'un ressenti, ni même des circonstances, car elle a pour donateur et objet le Dieu de la délivrance, celui qui nous offre la vraie, l'authentique liberté. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, verset 3, nous nous réjouissons. Comme le dit le psalmiste ailleurs, il y a d'abondantes joies devant ta face, dans le psaume 16. D'abondantes joies devant ta face. Le spectacle de la face de l'Éternel procure au psalmiste une authentique joie et une espérance, alors que la société du spectacle plonge ses victimes toujours plus dans la désillusion et la nostalgie du passé. Cette joie du chrétien, elle est ancrée au fond de lui comme une espérance. Elle lui permet de garder une certaine stabilité d'humeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'exprime jamais ses émotions. Le chrétien n'est pas de marbre. Le christianisme n'est pas du stoïcisme. Ce qui fait dire au théologien Eugène Peterson, la joie qui s'épanouit chez le chrétien dénote une surabondance spirituelle qui naît d'une profonde satisfaction à propos de Dieu et non à propos de soi. Nous découvrons alors que ces voies, les voies de Dieu, sont sûres et ses promesses fiables. Alors, peut-être as-tu perdu cette joie. Peut-être s'est-elle tout doucement étiolée. Toi qui m'écoutes, peut-être que la joie que tu avais auparavant, la joie du Christ, la joie de connaître l'Évangile, cette joie s'est affaiblie pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne ressens plus rien pour Jésus. Tu te dis, qu'est-ce que ça change ? Les gens autour de moi ont l'air heureux, chrétiens ou pas, croyants ou pas. Il se peut que les coups répétés, les épreuves de la vie t'ont épuisé. et peut-être t'ont rendu cynique. Peut-être as-tu lâché Jésus et tu as perdu cette joie. Sache que le pèlerinage chrétien sur cette terre peut prendre des routes difficiles. Mais le Seigneur est toujours là pour toi. C'est nous qui lâchons sa main. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu peux venir à Jésus. Tu peux lui prendre la main et la joie reviendra comme une petite lumière au fond des ténèbres. Tu peux faire avec moi cette prière de David au psaume 51. Rends-moi la joie d'être sauvé. Souviens-toi de moi par ton esprit généreux. Soutiens-moi par un esprit généreux. Oui, rends-moi la joie d'être sauvé. Et soutiens-moi par un esprit généreux.
Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Dieu, jouez, chantez pour votre Dieu.